Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Ce mois-ci, je vais vous parler de Lucilio Vanini, qui est né en 1585 et qui mourra en 1619. Alors, Lucilio Vanini est connu aussi sous le nom de Giulio Cesare Vanini. Il est né en 1585 à Torisano, en terre d'Otrante, en Italie, fils de l'intendant du vice-roi de Naples, Don François de Castro. Ses vastes connaissances et son éloquence lui assuraient un bel avenir. Vanini se rendit à Rome. Il étudia la philosophie et la théologie. Il fut le disciple fervent d'Averroès et, à l'image de son maître, il dénonce les erreurs d'interprétation de saint Thomas d'Aquin concernant la doctrine aristotélicienne, puis poursuit ses études de jurisprudence à Padoue. Il entre alors dans des ordres. Il se perfectionne dans l'étude des sciences et de la philosophie, et avec son éloquence et ses grandes connaissances, ce docteur napolitain pouvait confronter ses opinions avec ses collègues savants, ceci aussi bien en France, en Angleterre, en Allemagne, l'enseignement se faisant en latin. Il tente d'enseigner à Genève, puis en Hollande, en France et en Angleterre. Là, il abjure le catholicisme en 1612. En 1614, il est incarcéré 49 jours pour avoir critiqué l'Église anglicane. Nous ne savons pas grand-chose de ses voyages, si ce n'est qu'il froissait les convictions aussi des catholiques que des protestants, et qu'il était expulsé de plusieurs villes. À son retour à Lecce, il redevient catholique et se consacre aux études de la physique qui sont en vogue sous la Renaissance. Vanini retourne en France, à Lyon, en 1615. Il y publie un ouvrage qui le disculpe de l'accusation d'athéisme. Il s'intitule « Contre les philosophes, les athées, les épicuriens, les péripatéticiens et les stoïciens ». L'année suivante, il est le chapelain du maréchal François de Bassompierre, à Paris, où il publie les dialogues, merveilleux secrets de la nature, la reine et la déesse des mortels. L'ouvrage est suffisamment orthodoxe. Il est publié, initialement, ensuite soumis à réexamen, puis condamné à être détruit par les flammes. Probablement averti, Vanini se retire alors dans le sud-ouest. Il se réfugie dans un couvent en Guyenne. Il en est bientôt chassé. On l'appelle le César des impies. Il est accusé d'avoir eu des mœurs contre nature. Peut-être alors une réconciliation avec l'Église et une reconnaissance de ses erreurs du passé aurait suffi à le faire oublier, mais il décidera de se fixer à Toulouse. Il se retire d'ailleurs prudemment à Toulouse. Il commence à enseigner sous le nom de Pomponi Usiglio, qui deviendra Lucilio par assonance, voire Usilio. Il devient précepteur chez M. de Berthier, enseignant le jour, libertin la nuit. Toutes ces rumeurs inquiètent Berthier, qui le congédie. Vanini trouve alors refuge chez Adrien de Montluc Montesquieu, comte de Caraman. Ils se connaissaient depuis les soirées organisées chez Bassompierre à Paris. Ici, César et Vanini donna libre essor à son encombrante personnalité. Il s'opposa au savant toulousain, grossier et méprisant. Il enseigna la médecine, la philosophie et la théologie. Le président du Parlement, le Mazoyer, lui confia ses enfants. Il donnait ses leçons à domicile, puisait dans ses relations journalières avec la meilleure société toulousaine. Il éprouvait ainsi un sentiment de sécurité trompeuse qui s'accordait avec sa vanité et son tempérament aventureux. Du Capitole au Parlement de Toulouse, on s'inquiéta des troubles à l'ordre public et à son influence sur la jeunesse. Ses ennemis instruisirent un procès dans le plus grand secret. Giulio Cesare Vanini fut arrêté en novembre 1618 par l'Inquisition. Il fut accusé d'être athée et d'avoir des mœurs contre nature. Le grand auxiliaire de l'Inquisition fut le conseiller Guillaume de Catel. On suppose qu'il plaidera par fanatisme et aussi par jalousie vis-à-vis du président, le Mazuyer. Sur son arrêt de procès, retrouvé en 1853, dans un premier temps, Vanini fut accusé d'hérésie. Cela aurait dû le sauver du bûcher, mais on note que ce mot « hérésie » a été rayé et remplacé par « athée », ce qui entraînera la sentence suprême. Vanini aurait pu être libéré, mais un nommé Francon déposa une plainte accusant d'avoir entendu Vanini nier l'existence de Dieu et avoir blasphémé sur les mystères de la foi chrétienne. Dans ce texte de l'arrêt, Vanini est nommé Pompée, prénom qu'il avait pris afin de se dissimuler, s'étant appelé Pompée Usiglio. Le procès fut introduit et la condamnation prononcée par le Parlement de Toulouse, non par l'Inquisition, contrairement à ce que demandaient ses partisans. Une condamnation par la juridiction de l'Inquisition à cette époque, en France, n'aurait entraîné que des peines d'exclusion religieuse. Ce libre penseur, en attaquant l'ancienne scolastique, a contribué à jeter les bases de la philosophie moderne. L'être suprême donne des avertissements aux hommes et spécialement aux souverains. Sa vie errante, sa mort tragique, son parti antichrétien rappellent d'autres libres penseurs du XVIe siècle. L'homme, dit-il, devrait ne vivre que selon la loi de la nature qui est Dieu. Il nie aussi l'immortalité de l'âme. La cour a déclaré le dit Pompée Usiglio de crimes d'athéisme, de blasphème, d'impiété et d'autres crimes. Il condamne le dit Usiglio à être livré aux mains de l'exécuteur. Ousilio sera traîné sur une clé, en chemise, ayant le haut du col ouvert et portant un cartel marqué de « athéiste et blasphémateur » du nom de Dieu. Il sera conduit devant la porte de l'église Saint-Étienne et à genoux, tête et pieds nus, tenant une torche de cire ardent. Il demandera pardon à Dieu, puis on l'amènera en la place du Salin. Et, attaché à un poteau, on lui coupera la langue et le strangulera. Et après, son corps sera brûlé au bûcher. Les cendres jetées, ses biens confisqués. Voici ce que compte un historien présent, Barthélemy de Grandmont. Avant de mettre le feu au bûcher, on lui ordonna de livrer sa langue, sacrilège, au couteau. Il refusa. Il fallut employer des tenailles pour la lui tirer. Et quand le fer du bourreau la saisit, on la coupa. Jamais on n'entendit un cri plus horrible. On aurait cru entendre le mugissement d'un bœuf qu'on tue. Le feu dévora le reste et les cendres furent livrées au vent. L'exécution de Vanini fut une scène donc horrible, remplie de détails épouvantables, racontée par les contemporains. Nul ne comprit un tel acharnement. Tant de sang répandu finira par crier vengeance. Deux siècles plus tard, les descendants des juges Catel et Le Mazuyer monteront à leur tour sur l'échafaud. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.